Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose d'écouter une interview qui a été réalisée il y a de cela déjà quelques mois. Interview faite ici en studio à Radio Campus, en compagnie de trois autres personnes, trois invités donc pour cette émission. D'une part, Véronique Detière, qui est co-directrice de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, donc la FAPEO. Il y avait également en studio Elena Despascal, membre du collectif Tout va s'arranger ou pas. Et puis la troisième personne qui était là, c'était Pierre Schoenbrot, journaliste et réalisateur au Centre d'Action Laïque. Pourquoi est-ce qu'ils étaient venus me rejoindre à Radio Campus? Eh bien, c'était pour me présenter un documentaire qu'ils avaient réalisé, documentaire qui s'appelle Tout va s'arranger ou pas, et documentaire qui porte sur la santé mentale des jeunes. Alors, c'est une aventure qui a démarré en 2022, juste à la sortie de la période Covid, évidemment. Et voilà, c'est une série de réflexions qui ont mené Véronique Detière et Pierre Schoenbrot à vouloir se lancer dans ce projet, et Elena Despascal, qui elle-même était à l'époque en école secondaire et en grande détresse psychologique, a rejoint le train, et ça a donné un documentaire particulièrement intéressant. Qui, vous allez l'entendre, parce que l'émission sera en plusieurs parties, a aussi une suite. Alors, cette première émission, donc, portant sur le documentaire « Tout va s'arranger ou pas », eh bien, elle met vraiment le focus sur le documentaire. Dans les parties suivantes, on abordera d'autres éléments. Vous allez l'entendre, ce qui est dit à propos de la période Covid, de l'enseignement à distance, etc., risque de faire s'éclairer des petites lumières dans vos esprits, parce que évidemment aujourd'hui, les deux dernières années, avec la montée non-stop de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, eh bien l'importance du lien qui va ressortir de cette interview, j'espère, fera écho chez vous. Voilà, donc je leur laisse la parole tout de suite, Véronique Detière, Elena Despascal et Pierre Schoenbrot, qui nous parlent donc de « Tout va s'arranger ». Alors, on se retrouve à quatre autour de cette table pour une histoire de savoir un petit peu particulier, parce qu'il se fait qu'aujourd'hui, je vais interviewer une de mes élèves. Voilà, je change de casquette, puisque les heures où je ne suis pas à Radio Campus, je suis enseignante dans le secondaire, et Elena Despascal, qu'on reçoit aujourd'hui. Elena, tu es une de mes élèves c'est ta deuxième année chez moi. Donc voilà, alors on reçoit donc Elena Despascal, sa maman, Véronique Detière, et Pierre Schoenbrot, qui les a accompagnés dans la réalisation d'un documentaire, mais en fait ça va beaucoup plus loin que tout ça. Donc votre documentaire Tout va s'arranger ou pas, c'est un documentaire qui est né dans la suite des années Covid.
Oui, on peut dire que c'est né des années Covid et de la crise de la santé mentale des jeunes qu'on sentait tout doucement arriver, parce que nos téléphones ont commencé à chauffer, en fait, Véronique et moi, où de plus en plus de nos contacts faisaient part de leur inquiétude. Et puis, surtout, on peut dire que Véronique et Elena se sont pris en pleine figure cette crise Covid qui a eu quand même beaucoup d'impact sur la vie de famille.
Oui, voilà, tout à fait. Donc, parce que je travaille avec Pierre au demeurant sur d'autres projets, et à ce moment-là, on a énormément échangé, parce que non seulement à travers mon travail, j'étais alertée par des parents qui me contactaient et qui étaient concernés, et puis j'étais concernée, moi, directement par la problématique à la maison. On s'est mobilisé, on s'est renseigné, on a découvert avec stupéfaction l'ampleur des dégâts. Et ce qui nous paraissait aussi important, c'est que ça a mis en lumière une situation qui existait déjà avant. Et ça, c'est important, et c'est toujours important de le dire, parce que on en parlait peu ou pas assez, parce que sans doute, mais c'est une hypothèse, On le sait, là, les problèmes de santé mentale touchent majoritairement et principalement les publics les plus fragiles et les plus précarisés. Et là, c'est tombé en pleine figure de publics plus favorisés. Et comme toujours, quand ça arrive aux publics les plus favorisés, ça met en lumière et ça met le problème en lumière. Moi, je suis une militante et donc je me suis dit, et avec Pierre, on a beaucoup échangé, je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire quelque chose de toute cette souffrance, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile à vivre au quotidien.
Mmh, tout à fait. Alors Elena, si tu te replonges dans ces années 2020, tu étais en quelle année à ce moment-là, toi ?
Moi, pendant le premier confinement, j'étais en deuxième secondaire. Mmh. Et ensuite, pendant le deuxième confinement, donc quand il y a eu l'enseignement hybride, j'étais en troisième. Et en fait, j'avais pas du tout conscience de ce que c'était la santé mentale en deuxième secondaire. Enfin, en tout cas, pas vraiment. Enfin, moi, j'avais une vision très... Je savais ce que c'était l'anxiété, je savais ce que c'était un hôpital psychiatrique, mais je m'étais jamais posé plus de questions. Puis on regarde beaucoup le journal à la maison. Donc, et au journal, on voyait pas mal d'informations que les services de pédopsychiatrie commençaient à être surchargés, etc. Et c'est en 2022 qu'on a tourné le documentaire,
ouais,
je pense.
2022, ouais.
Et donc, il y a eu vraiment une explosion en 2021. Je pense que c'était en 2021, vraiment, ouais, que les services, ils ont... explosé, et c'est à ce moment-là que pour moi ça a été vraiment compliqué aussi. Et en fait, partout autour de moi, c'était comme ça aussi, quoi. Enfin, les jeunes étaient vraiment dans une situation de détresse émotionnelle et psychique dont j'avais pas conscience. Et moi, on m'avait toujours dit que l'adolescence était compliquée, mais je m'imaginais pas à ce stade-là. Et donc, c'est clair que la crise Covid, ça a eu un impact, mais comme on l'a, enfin, comme ma maman l'a dit, ça existait déjà avant. Et d'ailleurs, il y a une membre du collectif qui nous l'exprime bien, parce qu'en fait, elle, c'est Coco, et ses problèmes de santé mentale ont commencé bien avant. Et c'est important de le rappeler aussi, parce que la crise a mis en avant, a brisé un certain tabou qui existe toujours, mais ça existait déjà auparavant. Mmh. Voilà.
Alors, donc le documentaire 2022, ça veut dire, bah, effectivement, pour toi, puisque ça s'est cristallisé au moment des confinements liés au Covid, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur toi, le fait de devoir rester à la maison, enseignement à distance, hybride, ça devait être assez compliqué, mais qu'est-ce qui a provoqué ce basculement et cette prise de conscience du coup indispensable de devoir aborder les choses autrement?
Ben moi, depuis que je suis toute petite, j'ai des gros problèmes d'anxiété. Mmh. et c'est un truc qui a toujours été là, et déjà aussi j'ai des problèmes de troubles obsessionnels compulsifs, et par exemple notamment par rapport à la maladie, etc. Donc le Covid, ça a rien arrangé. Moi, je savais plus sortir dehors parce que j'avais peur de tomber malade, donc je suis pas sortie pendant un mois et demi. Enfin, j'ai pas mis un pied dehors pendant un mois et demi. J'ai essayé de faire une balade, je suis rentrée 10 minutes après. Et je pense que ça a surtout impacté dans les relations sociales et par rapport à l'école, où il y a eu une pression qui a été mise sur nous, mais c'était inimaginable. Et en fait, c'était surtout ma troisième secondaire, donc plus 2021, où on était en enseignement hybride. Donc, on allait en cours une semaine sur deux à peu près. Enfin, nous, c'était un jour sur deux, ça dépendait des périodes. Et en fait, donc, on avait cours à distance un jour sur deux, et on revenait à l'école le lendemain, et on avait plein d'interro. Et c'était un rythme que j'arrivais pas du tout à suivre, parce que moi, j'arrivais pas à écouter chez moi les cours. Enfin, c'était hyper compliqué. Et puis, quand on retournait à l'école, on n'avait pas droit au lien social. En fait, on avait que droit au travail et aux interros, et je me souviens qu'on n'avait même pas le droit de faire des câlins aux gens à l'école, parce que sinon on allait tomber malade et tout. Il n'y avait plus du tout le côté humain. Et aussi, on était... J'ai l'impression d'être un peu déshumanisée pendant cette période-là, et je pense que ça n'a pas aidé tout ça.
Mmh. C'est intéressant parce que, évidemment, moi, pour l'avoir vécu de l'autre côté, on n'était pas encore dans la même école, mais en tant que prof, moi j'ai eu plus l'impression que c'était le premier confinement qui avait été très dur et que l'hybridation, nous en tout cas en tant qu'institution scolaire, on avait l'impression d'apporter déjà une sorte de solution. Les élèves pouvaient revenir un jour sur deux. Alors évidemment, je sais que chaque école a abordé les choses différemment, mais voilà, très naïvement, je n'imaginais pas que c'était cette période-là qui avait pu être plus dure pour certains.
C'est intéressant, hein, parce qu'on le voit par ailleurs dans les chiffres, que le premier confinement a plutôt eu un impact même positif globalement sur la santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'on a relâché la pression, en tout cas chez les jeunes. Il n'y a pas eu d'examen de fin d'année. Il y a eu un espèce d'espoir aussi de se dire ça va être différent après. Il y avait le fait de se projeter en se disant voilà, on fait tout ça, on est à la maison, on va faire du macramé, de la guitare, des dessins. Enfin, en tout cas, on s'est mis sur pause. Beaucoup se sont mis sur pause et en se disant. Ça va être pour un mieux après. Et en fait, je pense que ce qui a été aussi un énorme déclencheur, c'est que non, après, ça n'a pas été mieux, ça a été pire. Et notamment pour l'école, je dois dire que cette question de l'hybridation, de la pression, alors c'est pas dans toutes les écoles, mais en tout cas c'est ce qu'on a énormément entendu, c'est ce que les professionnels de la santé mentale nous ont dit. Cette pression a été énorme sur les élèves et ça a fait les plus fragiles. Donc comme Elena a expliqué, il y a évidemment une fragilité, hein, donc ça a fait craquer les jeunes.
Oui, sur l'hybridation, rares sont les jeunes qu'on a rencontrés qui étaient en état et qui sont toujours en état de situation psychique difficile. Rares sont ces jeunes qui s'y retrouvaient dans cet enseignement derrière un écran où généralement au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils étaient nombreux à me dire nous on lâchait quoi, on était là sans être là, ou carrément on switchait, on éteignait la caméra et on abandonnait, on renonçait quoi. Donc la méthode même de l'informatique comme outil pédagogique est à relativiser. Et quand j'entends aujourd'hui que dans les écoles supérieures on essaye de généraliser la méthode, je suis très inquiet. Parce que même pour les plus âgés, les 18-25 ans, cette méthode-là n'est pas la panacée. Alors il y en a qui s'y retrouvent très très bien. Et d'ailleurs, dans les débats, dans les rencontres, on a des étudiants qui ont vu notre documentaire et qui disent « Mais moi, j'ai très bien vécu ça ». Oui, mais pas de souci, évidemment, tant mieux pour eux. La question, c'est pour ceux qui sont en situation plus compliquée, est-ce qu'on fait attention à ces étudiants-là, à ces jeunes-là, et est-ce qu'on modifie nos objectifs pédagogiques en fonction des plus faibles et des plus fragiles, si je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est le seul qui me vient là. Et là, force est de constater que non, on a l'impression qu'en tout cas, on a tendance à les oublier.
Oui, c'est vrai que c'est vécu comme une solution facile, hein. Tout se fait par un écran. Et c'est vrai que les adultes ont aussi, dans un premier temps, vu les avantages qu'il pouvait y avoir là derrière. Mmh. Avoir une réunion derrière un écran plutôt que de devoir aller sur place, c'est quand même parfois un sérieux gain de temps. Sauf qu'en fait, on se rend compte assez vite que ça ne sert pas à grand-chose.
Mais enfin, moi, je pense qu'en tout cas, dans beaucoup dans nos échanges, cette question de l'hybridation, des réunions, d'ailleurs, on était tous, hein, moi je bossais, donc j'étais aussi via écran interposé pratiquement toute la journée. Je pense que il y a des choses positives, hein, donc c'est un outil et on peut s'en servir. Mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui ressort très très fort chez les jeunes quand ils nous parlent, la question du lien, mmh. en fait. Et c'est vraiment ce mot-là, il est essentiel, le lien. Et donc ils ont besoin de liens, ils ont besoin d'humains. Je veux dire, à un moment, on comprend que on peut faire plein de choses via Internet, de regarder des informations, des capsules, etc. Mais on est toujours tout seul face à ça. Et donc, en fait, c'est important d'avoir du lien, de pouvoir derrière discuter avec des humains, avec des gens, des sujets, parce que on est quand même dans une société où on se retrouve bien souvent seul face à soi-même et seul face à tout ce qu'on doit, à ce dont on est confronté. Donc voilà, je pense qu'on peut se servir de l'outil informatique, mais ça ne doit pas être... ce n'est qu'un outil.
Moi, j'ai eu l'impression, et c'est un truc qui est là depuis des années, mais on est dans une société vachement individualiste et on est en manque de liens de groupe en général. Enfin, même quand je suis retournée à l'école après, moi, je ne parle pas de toutes les écoles que j'ai faites, mais dans certaines écoles, c'était très individuel, compétitif. Et en fait, on se rend compte que quand il y a une crise de santé mentale, c'est quelque chose qui joue énormément. Et on a pu discuter avec plusieurs psychiatres qui nous disent, mais en fait, il faut remettre le groupe. Et dans les écoles, c'est ça qui est important, c'est de refaire travailler les élèves en groupe, de recréer du lien, de retrouver l'humain. Parce qu'en fait, on est juste tout le temps à devoir travailler, plus que ce soit à l'école, au travail, et à devoir produire, à devoir tout le temps être vraiment productif. Mais on perd vraiment ce côté humain, ce lien social, et qui est primordial dans cette lutte pour la santé mentale.
Oui, et surtout dans la construction de l'adolescence. Oui. Je pense que c'est un temps finalement très court, hein, qui est aussi entre 2-3 ans, grand maximum. Donc en gros, le temps de la crise Covid, ça veut dire que quand même, il y a des jeunes qui ont été privés de cette adolescence-là, au sens du lien. Et là, je reviens à ce que Véro disait. C'est évidemment méga important. Moi, en écoutant Véro parler du confinement strict, qui a été un moment privilégié, où effectivement, ça me faisait penser un peu à ce temps que moi, j'ai vécu quand j'étais en deuxième secondaire, et qu'on a traversé les mois de grève au finish des enseignants, cette fameuse grève contre la réforme. C'est la célèbre réforme Onkelinx. Moi, j'ai vécu exactement l'inverse du confinement, en fait. Pendant 3 mois, j'ai vécu non-stop avec mes amis.
En vacances.
Mais j'ai un souvenir complètement intact de cette période-là. Je pourrais encore vous raconter des quantités astronomiques d'anecdotes que j'ai vécues et de liens forts que j'ai pu construire et vivre avec mes amis. Eux, c'était complètement l'inverse. Mmh. Tout à coup, on leur a coupé carrément les ailes. Et on les a privés de ce qui est le plus précieux au moment de l'adolescence, qui est le fameux lien dont parle Véro. Et là, voilà, cette génération va devoir faire sans. On ne sait pas trop ce que ça peut donner.
Mmh. Tu as l'impression, Elena, que c'est quelque chose que tu n'as pas pu rattraper par la suite, que c'est un élément de ta construction qui manque ?
Je pense que moi, j'ai réussi à le rattraper parce que j'ai recréé du lien. J'en ai vraiment pas eu pendant toute l'année 2020. Enfin, je me suis sentie très seule, mais en 2021, ça va paraître un peu paradoxal, mais j'ai rencontré des gens qui avaient les mêmes problèmes que moi. Et donc au début, on pourrait penser que ça allait nous tirer vers le bas, mais finalement ça nous a quand même tiré vers le haut de se rendre compte qu'on n'était pas tout seul. Et puis après, j'ai pu reprendre mes activités. Donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir manqué quelque chose. J'ai juste l'impression de l'avoir vécu différemment. Mais par contre, je constate qu'il y a vraiment des gens autour de moi que ça a impacté et qui maintenant ont vraiment du mal à sociabiliser et à se faire des amis, à sortir. Qui ont du mal à aller dehors et qui ont du mal à être en contact avec le monde extérieur. Et par exemple, dans la génération en dessous, les plus jeunes, donc ceux qui ont maintenant, 14 ans et moins, eux, ça les a impactés très fort. Et on voit ça aussi parce qu'ils ont vécu le confinement en primaire. Et la primaire, c'est aussi un moment où on forge très fort ses amitiés, son lien social, etc. Et je trouve que ça se sent vraiment... que les gens maintenant, les plus jeunes, ont plus de mal et de difficultés à sociabiliser et à rentrer en contact.
Mais en fait, est-ce que ton décrochage ne t'a pas sauvé la mise, quelque part ? Parce que si. C'est à ce moment-là que tu as commencé à recréer du lien.
Si, complètement, parce que le fait de ne plus aller en cours... C'est là que j'ai rencontré des gens qui allaient plus en cours et que on a commencé à sortir. J'ai commencé à sortir tard, à aller me balader tard parce que j'ai pas pu le faire quand j'étais pendant le confinement. Mais donc là, je me suis fait un cercle d'amis, tous un peu fous et qui allaient pas en cours. Et ça nous a permis d'avoir des amis et de faire des choses. Puis c'est là aussi que j'ai développé plein d'activités. J'ai commencé à écrire, à me mettre plus à fond dans le théâtre. Et donc je pense que ça m'a permis de faire pas mal de choses, le décrochage, même si on pense que j'ai un peu rien fait pendant 2 mois. Enfin, il y a des mois où j'ai rien fait, mais j'ai créé beaucoup plus de liens que pendant le confinement, quoi.
Oui, mais voilà, tu as réussi à retirer quelque chose d'un moment particulièrement pénible. Alors, le documentaire qui en a découlé, tout va s'arranger ou pas. Vous disiez le tournage a démarré en 22, mais
février 2022.
Voilà les prémices. Bah, c'est 21, c'est la période dont tu parles, Elena, en disant bah, j'ai décroché de l'école à ce moment-là et j'ai rencontré d'autres personnes. Est-ce que c'était déjà dans l'idée de créer quelque chose pour la suite ou c'est au contact de ces autres jeunes qui avaient vécu une situation similaire que bah, tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, mais que l'idée a germé de... en fait, il y a vraiment quelque chose à raconter là derrière.
Mais en fait, c'est... Moi, quand j'ai rencontré les jeunes, c'était pas du tout dans cette optique-là. Enfin, l'idée m'est pas venue du tout. C'est Pierre qui est venu vers moi et qui m'a parlé du documentaire. Au début, moi, j'étais très réticente, d'ailleurs. J'étais en mode, mais je vais pas faire ça, t'es fou. Et finalement, voilà. Mais c'est... Enfin, c'est... Je sais pas si c'est juste Pierre ou si c'est vous deux qui avez vu les... Enfin, qui vous êtes rendu compte de la crise et qui, après, vous vous êtes dit, mais il faudrait peut-être faire un documentaire et en parler. Mais en tout cas, ça ne naît pas de moi. Et au début, justement, j'étais très réticente. Et moi, je voulais pas trop parler de ça parce que j'avais un peu l'impression de me mettre à nu et de devoir avouer des choses que j'avais pas envie d'avouer. Puis je me suis dit que ça allait apporter du positif à d'autres gens, que peut-être que moi, j'allais pas du tout en tirer du positif. Et finalement, j'en tire beaucoup de positif parce que justement, il y a ce collectif qui s'est créé. Il y a cette lutte plus politique que moi, je mène et qui m'aide beaucoup. Et voilà.
Ce qui a été passionnant dans cette aventure, en fait, c'est d'être face, en tout cas là je prends ma casquette de journaliste plutôt que de réalisateur, c'est d'être face à un phénomène qu'on sent être de plus en plus important et déterminant dans la vie sociale d'un pays. Vraiment, moi, c'est ça, cette histoire-là. Et je peux très encore le dater, janvier 2021. Je me souviens d'avoir discuté avec ma compagne psychologue dans un service de santé mentale bruxellois. Ils ont des permanences, donc toute personne du quartier peut venir en détresse sans rendez-vous. Et c'est principalement, non, c'est uniquement des adultes. Ça fait 25 ans qu'elle travaille là, c'est uniquement des adultes qui viennent à ces permanences. Janvier 2021, elle commence à voir des jeunes arriver à ces permanences sans leurs parents. Parfois même des mineurs, dans des situations de crise d'angoisse forte. Je me souviens, c'était une anecdote, elle sort de son bureau et sur la porte, sur le perron du service de santé mentale, elle tombe sur un jeune en crise d'angoisse. Et de janvier à juin... Elle n'a pas arrêté de me rapporter ces anecdotes-là. Tout le travail de journaliste, c'est d'essayer de se dire quand est-ce qu'il y a phénomène, en fait. Et là, c'est le mois de juin, je me souviens très très bien, qu'on a commencé à recroiser nos impressions et nos aventures personnelles, nos anecdotes personnelles, qui étaient vraiment très fortes, très importantes, puisque là, c'était Elena qui était en plein décrochage et qui abandonnait tout. Et en plus, toi, avec ta casquette FAPEO co-directrice, il y avait son téléphone, sa centrale téléphonique qui débordait. Et donc là, voilà, on commence à mettre bout à bout tous ces phénomènes, tous ces coups de téléphone, tous ces retours, parce que j'ai aussi tout un réseau que j'ai construit depuis 25 ans sur le terrain social, qui m'appelle, qui commence à me dire qui dans une AMO, qui dans une maison de jeunes, qui dans une école, et parfois sur des territoires très éloignés, m'a rapporté des expériences professionnelles toutes similaires au niveau du constat, c'est-à-dire notre jeunesse va mal. Alors, évidemment, bien entendu, il y a encore une majorité des jeunes qui vont bien, mais la part de ceux qui vont mal grandissait à vue d'œil, j'ai presque envie de dire. Et donc, rebelote, hein, ça c'est au mois d'octobre-novembre 2021, là c'est la brésilienne la plus totale, mise en place de l'enseignement hybride, et là on est, là vraiment comme journaliste, je me dis, oui, on n'est plus dans l'anecdotique, on est dans un phénomène qu'il faut traiter. Et puis, le moment de la certitude est là, il faut faire un documentaire. On l'a lancé au mois de février 2022. C'est Sophie Mas, pédopsychiatre au domaine, qui écrit cette carte blanche dans le soir, qui a quand même pas mal fait parler d'elle. En tout cas, moi, elle m'a tapé dans l'œil. Et je me suis dit, bon, ben, si une pédopsychiatre signe un texte fort qui... attire l'attention sur les listes d'attente qui deviennent kilométriques et sur l'état de détresse dans laquelle se trouve toute cette jeunesse, si ce texte paraît dans la presse, c'est que je peux aller frapper à sa porte pour éventuellement commencer une aventure documentaire. Et bon feeling, hein, ma proposition a été acceptée par toute son équipe et j'ai commencé à tourner avec les jeunes qui étaient hospitalisés au domaine. Et ça a été un grand moment de ma carrière et le début de toute cette aventure. Et avec aussi des coups de téléphone quotidiens, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passait avec Véronique. On était là, ok, il y a ça, comment est-ce qu'on peut l'interpréter, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce qu'il fallait quand même construire un documentaire, c'est pas rien, mais aussi une réflexion journalistique, essayer de décoder, de ne pas être justement dans l'anecdotique, mais dans l'analyse, et puis dans l'objectivation aussi de ce qui se passait. Un coup de téléphone, c'est bien, mais il fallait avoir une vision un petit peu plus globale, essayer d'avoir des chiffres, essayer d'objectiver toutes ces impressions qui nous revenaient du terrain. C'était un immense travail, mais c'était passionnant, et c'est pas fini.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Gershon Brod, tu avais eu l'occasion auparavant de déjà travailler sur d'autres documentaires ?
Oui, c'est pas mon premier du tout, et j'avais travaillé il y a de ça longtemps sur à l'unité Caribou de l'hôpital Titeka, qui accueille des jeunes qui ont commis des faits très graves de violence. Sur des personnes qui ont été vraiment condamnées, mais qui avaient ceci en commun, que c'était en raison de leur maladie mentale. Ça, c'était ma première aventure santé mentale, mais après plus rien pendant toutes ces années, ni avec les jeunes, ni avec la maladie mentale. Donc il a fallu aussi se former, parce que comme journaliste, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est un peu l'objectif.
Vaut mieux, ouais.
Et c'est un sujet complexe, hein. Ouais, donc, il faut quand même avoir une expertise avant d'oser s'autoriser à proposer des conclusions et des explications. Et voilà, mais je me repose sur les nombreuses personnes que j'ai interviewées. Moi, je ne me permets que de répéter des choses intelligentes que d'autres ont dites.
Alors, Elena, tu disais, toi, c'était un petit peu plus compliqué de t'avoir à bord de l'aventure. Il a fallu un petit travail de persuasion.
Véronique, on peut dire ça comme ça.
Oui, hein. Véronique de Thiers, pour toi, ça a été, c'était une évidence quand Pierre a proposé le travail. C'était peut-être aussi une manière de prendre un peu de distance en tant que maman.
Moi, pour moi, c'était pas tellement prendre de la distance. J'ai dû jongler dans le documentaire entre ma posture de maman, hein, donc et la posture plus méthode avec une vision sur le système. Pour moi, ça a été une évidence et c'est essentiel et on continue ce travail parce que j'entends aussi toute la détresse des jeunes, mais aussi la détresse des parents. Qui sont bien souvent seuls et qui se heurtent, qui se sont heurtés à ce moment-là à il n'y a pas de place, hein, donc vous devez rester chez vous et vous ne pouvez pas la laisser seule. Je veux dire, c'est quand même extrêmement violent et compliqué à gérer. Et puis, le fait que il fallait en parler, en fait. Il fallait expliquer, en parler, visibiliser, libérer la parole sur cette question-là. Alors oui, je me suis un petit peu exposée, hein, je dirais un moment... mais bon, ça, c'est un choix, c'est ma personnalité. C'est un moment de dire qu'est-ce que je porte et quelle est ma volonté. Et voilà, et je pense que c'est important de le faire.
Ce qui a été génial dans cette aventure, c'est que quand j'ai commencé à prendre contact avec toutes les personnes que j'avais identifiées comme que nous avions identifiées comme des personnes ressources pour le documentaire, des professionnels et des experts de la santé mentale, toutes ces personnes m'ont dit très modestement va d'abord voir les jeunes. Et ça, j'ai trouvé que c'était le meilleur conseil qu'ils aient pu me donner, parce que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un vrai projet qui est plus qu'un documentaire, c'est de se dire va les rencontrer, fais leur confiance, ils ont des choses à dire, et puis après nous on sera à ta disposition si tu l'estimes nécessaire. Mais d'abord et avant tout, c'est eux qu'il faut que tu fasses parler. Et ça, c'est à mon avis le vrai point de départ de cette aventure.
Alors, justement, parlons de point de départ. Pierre, tu citais tout à l'heure le domaine. Tu disais, au début, on a rencontré les jeunes du domaine. C'est quoi le domaine ?
C'est une unité pédopsychiatrique qui accueille des jeunes en urgence, hein. Enfin, en urgence relative, parce que vu l'état de saturation du service, certains jeunes ont dû attendre vraiment, vraiment longtemps. Et donc, ils sont là pour une durée de 3 à 6 mois. Pour les mettre à l'abri, déjà, je pense que c'est vraiment l'abri au sens propre du terme qu'il faut d'abord comprendre dans cette approche hospitalière. Et puis alors ensuite, un traitement qui va avec, médicamenteux, plus ou moins lourd en fonction des situations, parce que les jeunes arrivent vraiment dans des états de détresse qu'on n'imagine pas. Hein. Au bord de passage à l'acte ou dans des conduites à risque vraiment très, très fortes. Et ce temps d'arrêt, cette mise à l'abri est censé leur permettre de se reconstruire et de pouvoir sortir en meilleur état qu'ils sont entrés. En vrai, et là je ne parle pas nécessairement du domaine, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et ça, c'est un peu notre expérience qui aujourd'hui nous permet de dire ça. Ça va être très compliqué. Ça est l'objet du numéro 2, puisqu'il y a le document, mais sans doute qu'on va y arriver. Mais n'allons pas trop vite. Dans un premier temps, il y a des jeunes qui sont mis à l'abri et l'hôpital joue pas vraiment pleinement son rôle. C'était nécessaire. Et donc, il a fallu les convaincre, tous ces jeunes, de me parler. Tout comme il a fallu que je convainque Elena aussi de me faire confiance. En fait, c'est un lien de confiance qu'il a fallu d'abord tisser.
Elena, toi, tu t'es aussi retrouvée en hôpital ou vous avez géré la situation à la maison ?
Alors, moi, je me suis retrouvée en hôpital, mais déjà, avoir une place, ça a été compliqué. Parce que je pense que j'ai commencé à chercher une place en novembre 2021 et que j'ai eu une place en février 2022. Et déjà, en fait, au début, on cherchait une place en hôpital de jour. parce que c'est quand même un système différent et qui essaye de re-réfléchir les méthodes de soins psychiatriques, enfin pour la plupart des hôpitaux de jour. Et c'était impossible d'avoir une place, donc j'ai eu, après un moment de crise, j'ai eu une place en urgence en hôpital psychiatrique résidentiel, donc où on dort. Et en fait, je suis arrivée là-bas, et je suis arrivée là-bas, j'ai eu mon premier rendez-vous avec l'infirmière, ma maman, la pédopsychiatre, et la médecin généraliste. Déjà, c'était un peu impressionnant d'avoir trois personnes.
C'est ça, quoi.
Trois personnes comme ça en face de moi. Et en fait... je suis arrivée et je leur ai dit, mais je peux pas rester là. Enfin, c'était impossible. Je me suis vraiment sentie déshumanisée et je voulais pas rester là. Donc, je suis restée 8 heures, puis on est venu me chercher. Parce que je comprenais pas comment ça pouvait me faire m'apporter du positif. Et ils avaient décrété, en plus, que je pouvais pas avoir de lien avec l'extérieur, ce qui, pour moi, était primordial.
Ben oui.
Surtout après en avoir manqué pendant des années. Et là, j'arrivais enfin à me recréer un cercle social. Et donc, je ne suis pas restée, mais après, j'ai eu une expérience en hôpital de jour qui s'est vraiment mieux passée. Et ça a été bénéfique pour moi, cette période-là. Ça ne m'a pas soignée, ça ne m'a pas fait changer, mais ça m'a permis d'avoir un projet sur un laps de temps et de ne pas rester chez moi et de rencontrer d'autres jeunes. Et voilà.
D'autres jeunes qui étaient dans une situation similaire à la tienne.
Oui, alors, on n'imagine pas, mais il y a plein de cas différents. Mais dans une situation similaire, oui, mais en fait... et aussi des jeunes de plein de milieux différents. Mais moi, j'étais dans une unité où, en fait, c'était un dispositif intensif. Ça durait 4 semaines. On était un petit groupe de 3 et on faisait plein d'activités à 3. Et on était en même temps suivis par un psychiatre et un éducateur.
Ok. Ce petit groupe de 3, ce sont des gens que tu croises encore ?
C'est des gens avec qui je ne suis plus en contact, mais ça... On est quand même resté en contact après l'hospitalisation. Actuellement, on prend plus de nos nouvelles, mais c'est pas. Enfin, il y a quand même eu tout un moment où on était amis, on était en contact et on a continué à faire des choses ensemble.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout à Véronique Dethière, Elena Despascal et Pierre Schoenbrod de m'avoir accordé cette interview. La suite, la semaine prochaine, bien sûr. Et si vous êtes intéressé par le documentaire « Tout va s'arranger ou pas », eh bien, je vous renvoie vers le site du Centre d'Action Laïque. Vous faites une petite recherche dans Google ou autre moteur de recherche de votre choix et vous trouverez toutes les infos très rapidement. Voilà. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour une autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What?